les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1977, sortait « Le fond de l'air est rouge » de Chris Marker, un film documentaire de 4 heures couvrant la décennie 67-77 et composé à partir d'une multitude d'extraits de films, de chutes et de rushs, répertoriés ou oubliés, glanés un peu partout. Montage virtuose, « Le fond de l'air est rouge » reste l'un des plus passionnants et émouvants objets cinématographiques sur cette période de l'histoire du XXe siècle. 30 ans après, Chris Marker se défendait cependant d'avoir voulu faire avec ce film la chronique d'une décennie. Ces lacunes, déjà inévitables, deviendraient indéfendables, disait Marker. Pour lui, le film s'articulait autour d'un thème précis. Ce qui advient lorsqu'un parti, le PC, et une grande puissance, l'URSS, cessent d'incarner l'espoir révolutionnaire, ce qui naît à leur place et comment se joue l'affrontement. L'ironie est que 30 ans plus tard, la question ne se pose même plus, concluait Chris Marker. L'un et l'autre ont cessé d'être, et ce qui reste comme chronique, c'est celle de l'interminable répétition d'une pièce qui n'a jamais été jouée. En novembre 1977, dans Le cinéma des cinéastes, à propos du fond de l'air est rouge, Claude Jean-Philippe recevait Inger Servolin et Pierre Camus, animateurs et producteurs au sein d'ISCRA, le collectif initié par Chris Marker.
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices.
Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné.
Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe.
Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût.
Alors, au sommaire de notre émission aujourd'hui, un film très important, ne serait-ce que par sa durée, 4 heures, il s'agit du Fond de l'air est rouge. Autour de moi, pour en parler dans ce studio, Inger Servolin et Pierre Camus, que je peux présenter comme des permanents d'un groupe de production et de distribution de films qui est le groupe ISCRA et qui travaille autour de Chris Marker. Mais Inger Servolin et Pierre Camus, vous allez tout de suite me corriger et me dire très exactement ce que ISCRA est et d'où ISCRA vient. Parce que je crois qu'il est très important pour les spectateurs qui vont aller dans des salles de cinéma voir Le fond de l'air est rouge, il est très important pour eux de savoir d'où ce film vient. Je crois que ce film n'aurait pas été possible sans un très long travail, sans une très longue réflexion qui date maintenant, on peut dire, de presque une dizaine d'années. C'est ça, Inger Servolin.
Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Oui, je vais essayer d'expliquer ça un peu brièvement parce que l'histoire peut devenir très longue. Le groupe ISCRA, c'est l'héritier direct d'un autre groupe qui, d'ailleurs, groupait les mêmes gens et qui s'appelait Sloan et qui s'appelle toujours Sloan, mais qui fonctionne plus de la même façon. ISCRA, donc, existe depuis 3-4 ans et l'idée de produire et de distribuer tel que nous le faisons se faisait déjà avant avec le groupe Sloan et depuis 67 à peu près. Et c'était l'idée du collectif, qui d'ailleurs déjà s'appelait Sloan en 67, et qui avait produit et surtout réalisé ensemble Loin du Vietnam. Donc l'idée finalement a démarré à partir de ce film où plusieurs réalisateurs voulaient travailler ensemble, faire un film collectif et où ils se sont heurtés à un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas tellement les problèmes pratiques de la production mais qui étaient beaucoup plus comment utiliser le film, quoi faire avec le film une fois qu'il est terminé. Et pour ça, effectivement, il faut être le producteur de son film. Et c'est comme ça que la nécessité s'est fait ressentir et que, après une année de tâtonnements et de tentatives de mettre sur pied quelque chose, après mai 68 et l'éclatement des États généraux, effectivement, le groupe Sloan a été fondé.
Vous pouvez nous préciser pourquoi Sloan et pourquoi Iskra, c'est un nom un petit peu bizarre. Hein.
Ah oui, ça c'est finalement...
Ben Sloan, ce sont des initiales.
Alors Pierre Camus.
C'était Société pour le lancement des œuvres nouvelles. Et ça veut aussi dire éléphant en russe. Et Iskra, c'est également des initiales. C'est image, son, kinescope et réalisation audiovisuelle. Et également Iskra veut dire l'étincelle en russe aussi. Et c'était aussi le premier journal de Lénine.
Et il y a un cinéaste dont vous vous réclamez, dont Chris Marker se réclame, un peu comme Godard, pendant une certaine période, s'est réclamé de Dzigavertov.
Oui.
Vous, c'est un autre cinéaste soviétique. Alors,
oui, qui est... c'est Alexandre Medvedkin, dont on connaît en France, je pense, à peu près qu'un seul film, c'est Le Bonheur. Et Le Bonheur, on l'a sorti justement vers les années 73.
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous réclamez de Medvedkin?
Alors, Medvedkin, bon, il avait... inventé, pour ainsi dire, ce qu'on a appelé le cinéma d'agitation et de propagande. En lançant sur les chemins de fer russes, quoi, il a utilisé le réseau ferré russe pour transmettre dans les années 1922, je pense, c'est-à-dire juste après la révolution de 1917, pour transmettre la bonne parole de Lénine, et notamment par des trains complets, des trains qui avaient peut-être une dizaine de voitures. Il y avait des cinéastes, des techniciens, des opérateurs, des gens qui faisaient le montage. Il y avait un laboratoire dans le train. Et ils allaient dans les campagnes ou dans les usines. Ils filmaient sur place. Ils développaient tout de suite dans le train. Ils montaient et ils projetaient le lendemain aux ouvriers ou aux paysans ce qu'ils faisaient comme travail. Et ils essayaient d'en discuter avec eux et d'en faire la critique.
D'ailleurs, il y a un film qui relate un peu cette histoire. C'est justement encore un film de Chris Marker et qui s'appelle Le Train en Marche. Et qui est... un peu la préface au film de Medvedkin qui s'appelle Le Bonheur, et que vous connaissez sûrement.
Et Alexandre Medvedkin vit toujours, c'est un vieil homme en pleine santé qui était en France encore, qui est venu en France vers le mois de mai cette année, je pense, puis on espère bien qu'il reviendra un jour encore.
Vous, vous êtes resté fidèle à Medvedkin, alors que Godard, maintenant, c'est son image. Enfin, c'est étrange parce qu'il y a un parallélisme, il y a groupe Dzigavertov et puis son image, et il y a groupe Sloan et puis Iskra.
Il y a eu des groupes Medvedkin aussi, justement.
Il y a eu aussi des groupes Medvedkin.
Absolument. Dans la région de Besançon, après les grèves de 1967 qui avaient lieu à Besançon et à Lyon, à la Rodia Seta, des groupes d'ouvriers ont voulu prendre la caméra, faire leur film. Et ils nous ont fait toute une série de films que le groupe Sloan diffusait à l'époque et que Iskra continue à diffuser.
Bien, alors donc, on voit bien que le projet essentiel est d'abord l'idée du collectif dont on va reparler, et d'autre part, l'idée de que ce collectif contrôle tous les éléments du film, c'est-à-dire depuis sa production jusqu'à sa distribution et à sa diffusion. Je veux dire que c'est ça l'idée.
Absolument.
C'est l'idée d'une chaîne... continue et contrôlée librement par vous.
Par nous seulement.
Cette année, nous n'avons pas encore des salles de cinéma.
Vous n'avez pas encore de salles de
c'est
cinéma.
C'est un rêve depuis quelques années, mais on n'a pas réussi encore.
Alors, l'idée du collectif, d'une part, vu de mon point de vue, qui est celui de quelqu'un qui suit la carrière d'auteur de films, je vois bien la difficulté que Godard a à disparaître en tant que nom. À l'intérieur de son image. Les génériques ont beau être indiqués à tout coup, produits par Anne-Marie Mieville et Jean-Luc Godard, réalisés par l'ensemble de l'équipe, il est évident que la première réaction paresseuse peut-être d'un journaliste, c'est que fait Godard, que devient Godard, que va faire finalement. Pour Marker, il est bien évident qu'avant Sloan et avant Iskra, il y a une œuvre de Marker qui existe, dont on a parlé, et on sent bien que sans Marker, ni Sloan, ni Iskra, ni le fond de l'air est rouge, ne serait-ce qu'il est. Alors, est-ce que vous pouvez parler de cette espèce de contradiction apparente entre la présence d'un individu créateur de la taille de Marker et d'un groupe de travail dont vous faites partie autour de lui?
Oui, là, je crois qu'il n'y a pas vraiment une contradiction. Je crois que c'est deux choses qui se complètent, c'est-à-dire qu'il y a un désir de quelqu'un comme Marker de faire un travail différemment. Je crois que je peux dire ça sans trahir sa pensée. Ça ne veut pas non plus dire qu'il ne peut pas également faire un travail personnel comme le Fond de l'air est rouge, comme La bataille des 10 millions, comme Le train en marche, qui sont des films signés par Marker et qui sont ses films à lui, mais qu'en même temps, il a la possibilité, et jusqu'à maintenant le désir également, de participer à des films de façon collective. C'est-à-dire que ou ce n'est pas son film, ou ce n'est pas sa pensée à lui, ou sa façon de voir les choses, mais qu'effectivement, ça traduit la pensée d'autres, qui peut ne pas être notre collaboration même personnelle, pratique, physique, de chaque membre d'ISCRA, mais ça peut être également, par exemple, des tournages qui sont faits à l'étranger, par exemple à Cuba, je cite La bataille des 10 millions, parce que c'est un film qui est un peu connu quand même, et qui effectivement traduisait beaucoup plus les préoccupations des Cubains que Chris Marker connaît bien, et que, pour lesquels nous étions tout à fait d'accord d'ailleurs, donc il y avait accord complet, mais où effectivement il y a quand même en même temps un film de Chris Marker, mais une façon de se mettre dans une pensée collective et dans une pensée au-delà de la sienne pour défendre une idée qu'il défendait, mais qui était davantage les idées des Cubains à l'époque, par exemple. Donc ça se retrouve à des tas de niveaux différents, et que le travail collectif, je crois que très souvent on se fait des idées fausses dessus. Ça peut être à des niveaux différents de création collective, effectivement. Ça peut être création, je veux dire, artistique et la pensée politique ensemble, c'est-à-dire qu'on l'élabore ensemble. Ça peut être aussi à des niveaux très différents, où, effectivement, on se partage quand même les tâches, c'est-à-dire qu'effectivement, le créateur, tel qu'on le considère ou tel qu'on le pense dans notre société, c'est effectivement celui qui a l'idée et le talent artistique. Mais qu'autour d'un travail qui se fait et qui s'invente au fur et à mesure, parce qu'effectivement, quand nous avons commencé le travail collectif, encore entre guillemets, parce qu'au départ, on ne savait même pas qu'on allait travailler collectivement, tel qu'on en parle maintenant, c'est que ça se fait aussi en inventant des choses. C'est-à-dire qu'il y a forcément création à tous les niveaux. Et là, je crois, quand quelqu'un comme Chris Marker ou Godard essaye de s'effacer par rapport à une image que les gens ont d'eux et qui est très souvent juste, mais qui est aussi très souvent fausse, c'est, je crois, surtout pour éviter cette forme d'élitisme.
Est-ce que ce n'est pas très difficile?
Si, c'est très difficile.
Alors racontez-moi, je veux dire, concrètement, quotidiennement, ce qui se passe quand vous travaillez. Prenons l'exemple du Fond de l'air est rouge, si vous voulez. Alors, comment les tâches sont-elles réparties?
Oui, mais là, le Fond de l'air est rouge, je crois, justement, ce n'est pas un très bon exemple, parce qu'on a fait le film comme on aurait fait n'importe quel film à l'intérieur d'ISCRA, je veux dire, avec la même collaboration pratique. Mais là, je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est vraiment un film de Chris Marker et qu'il a signé lui.
Bien.
Que là, nous avons travaillé dans le film parce que on sait depuis des années maintenant que nous parlons le même langage, que nous voulons à peu près les mêmes choses, que nos buts sont les mêmes, et que nous avons une habitude de travailler qui fait que on travaille facilement ensemble, si vous voulez. Quand on est sur un coup, le reste disparaît, et je veux dire, sans idéaliser, parce que forcément, quand j'en parle, ça paraît vraiment parfait, ça ne l'est pas, c'est évident. Mais là, je crois que le travail collectif a beaucoup plus été dans le sens où nous avons aidé à faire le film, mais que ça, on se trouve en face d'un film de Chris Marker.
Bon, d'accord. Ça, c'est donc un exemple. On va en reparler tout à l'heure. Alors maintenant, prenons l'exemple d'un film réellement collectif.
Non, mais attends. Je voudrais dire aussi, c'est quand même un film collectif au niveau où Chris le signe en disant montage et bande sonore Chris Marker. Mais à la fin du film, il y a un générique presque complet de tous les gens qui ont participé au tournage des éléments du film, et Chris indique bien les véritables auteurs de ce film sont les innombrables caméramans, preneurs de son, militants, etc., qui ont participé à l'élaboration des images. Donc là, on est en face d'un film d'un auteur, mais fait à partir de gens qui sont presque tous des gens du collectif ISCRA, Sloan, ou de tas d'autres collectifs de cinéma militants.
Oui, alors ce qui vous justifie, d'après ce que je comprends et d'après ce que j'ai vu en tout cas pour ce qui concerne le fond de l'air et rouge, il est bien évident que ce qui justifie cette action collective, voilà, vous allez me corriger si je me trompe, c'est bien que finalement l'idée du film part de la réalité vécue par les acteurs, avant même d'être les auteurs. Il y a les acteurs révolutionnaires, les étudiants de mai 68, les Che Guevara, Régis Debray, Salvador Allende, etc., qui font l'histoire, on peut dire, en tant qu'acteurs, donc auteurs de cette histoire. Et vous devenez, vous, faute que ces films soient réalisés par les intéressés eux-mêmes, vous devenez, vous, leur... Comment dire ? Alors, c'est difficile.
Mais c'est pas un porte-parole, parce qu'on ne sait pas si on peut apporter leur parole.
Non,
non,
justement. Mais justement, comment dire ? C'est ça qui est intéressant. Qui êtes-vous par rapport à un ouvrier en grève, par rapport à Salvador Allende, par rapport à Régis Debray, par rapport à Fidel Castro ?
Je vais vous dire, l'idée de départ du film, c'était à une époque où en France, il existait encore une censure politique, pornographique, etc., sur la violence. Depuis, je crois, 1974... depuis l'arrivée de Giscard d'Estaing en France, la censure a été abolie. Alors, on est parti avec cette idée que, comme il n'y avait plus de censure, on pouvait utiliser tout ce que les gens s'étaient fait censurer, parce que les films étaient vraiment censurés à cette époque-là, et tout ce que les gens s'étaient auto-censurés eux-mêmes. Plus ce qu'on appelle les chutes, les non-utilisés, etc., tous les petits bouts de pellicule qui traînent à la fin d'un montage dans une salle de montage. Alors, en partant de tous ces éléments-là, on a réussi à dire les choses qui n'avaient pas été complètement dites à l'époque.
Ou montrées.
Oui, mais enfin, vous n'avez pas répondu à ma question, qui est, il y a des auteurs qui font l'histoire, qui s'appellent Régis Debray, Che Guevara, Fidel Castro, les étudiants de mai 68, etc. Et vous êtes auteur de films. Quelle est la relation entre...
Oui, non, c'est une question très facile, là.
Mais il me semble qu'elle est fondamentale.
Oui, mais non, mais elle est forcément très importante.
Parce que Medvedkin, il n'y a pas de problème. Il prend son train, il filme les gens, il fait à peu près ce que faisaient les opérateurs Lumière à l'époque. Mm-hmm. C'est-à-dire que, Lumière, c'était photomaton. Enfin, je veux dire, il filmait les gens et puis leur montrait leur portrait filmé, enfin, leur portrait vivant. Bon, c'est pas grave, hein, je veux dire que c'était une curiosité. Medvedkin fait ça sur le terrain politique, il va filmer des gens, il filme leur vie quotidienne et les problèmes qu'elle pose, je suppose, et aussitôt, bon, les gens voient leur propre image, la critique, etc. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui en France.
Non, là c'est un travail de synthèse, en fait. C'est bien un travail de montage, ce film, justement.
Voilà, ouais, avec quand même des questions que Marker s'est posé, que vous vous êtes posé autour de lui, et qui était première question. Enfin, je veux dire, c'est la première question que se pose quelqu'un d'un peu naïf comme moi devant un film pareil. De quelle obédience s'agit-il ? Oui. Or, il est évident que, voyant le film, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'obédience, que ce film ne porte la parole d'aucune organisation politique connue. Alors ça c'est un principe auquel vous tenez, je crois, à Iskra, non ?
Par rapport à des groupes politiques, partis politiques, nous sommes tout à fait indépendants de toute obédience, quelle qu'il soit.
Enfin, vous êtes de gauche, mais...
Nous sommes de gauche, mais nous n'appartenons pas d'aucun groupe politique, d'aucune sorte. On le fera peut-être dans le futur, si tout d'un coup il y a un parti qui vraiment... Hein, ça se peut, mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était une volonté de tous les membres d'ISCRA de rester indépendants. Et je crois que c'est très important, parce que je ne dis pas que les films de propagande pour telle et telle pensée politique ou telle et telle partie ou groupe ne soient pas utiles, je conçois, mais nous, ça ne nous intéresse pas de participer à ce travail-là. Nous voulons surtout essayer d'avoir un œil, dans la mesure du possible, aussi libre, oui, que possible. Et également pouvoir critiquer librement, c'est-à-dire critiquer, approuver et nous tromper. Sans pour autant qu'effectivement ça met en marche des tas de polémiques d'une part et d'autre part aussi, parce qu'on trouve que c'est normal.
Là je vois Caroline s'agiter, elle a certainement une question à poser. Alors Caroline, je vous demande de la poser.
Non, la question de Claude tout à l'heure, je la trouve importante parce qu'elle met en question les images. Les gens dont il vous a parlé... qui sont, que ce soit le Che ou Eisenstein ou n'importe qui d'autre, sont des gens aujourd'hui qui pour nous sont des images. même s'ils ont des sons quelque part, et d'ailleurs ils ont beaucoup moins de sons que d'images, ils ont plus des images, on connaît leur tête, c'est quelque chose qui nous occupe d'ailleurs, nous, notre tête. Les dirigeants politiques aussi. Marché, il a une image, il n'a peut-être que ça d'ailleurs. Mitran en a une, les groupes politiques de gauche et d'extrême gauche ont des images. Est-ce que ce que vous nous dites d'une certaine manière, c'est non, nous on n'en veut pas. Nous on n'en veut pas pour nous. Pourquoi ? Parce que vous en fabriquez ? Parce que ça, je ne comprends pas.
Oui, en d'autres termes, le Che, Allende, etc., présentent, d'ailleurs dans vos films, dans le fond de l'Arrière Rouge, très violemment leur propre image politique. Et ils se trouvent face à une caméra qui, prenant peut-être du fait que vous prenez votre liberté de regard, votre droit de regard, vous n'êtes plus que regard et pas vous-même image. Et pas vous-même image politique aussi forte, aussi violente que celle qui vous est proposée par les gens que vous filmez.
Refuser une popularité, c'est refuser une image. Mais c'est refuser une image, à mon avis, c'est pas forcément positif. C'est refuser à un moment donné à d'autres de vous voir. Alors, évidemment, c'est aussi leur permettre, d'une certaine manière, de vous voir ailleurs que ce qu'on matraque d'habitude. C'est-à-dire la façon dont on oblige les gens à se voir.
Oui, ça.
Tu comprends ?
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Là, il y a le côté matériel de la chose. Il y a les images qui existent, il y a les images que nous pouvons avoir, il y a les images que nous pouvons filmer. Ce que nous ne pouvons pas filmer ou ce que nous ne sommes pas capables non plus de voir, même si nous avions la possibilité matérielle et pratique de les faire. Dans un film, en général, je trouve que la question a été très très intéressante, et je veux dire que ça peut même devenir un sujet en soi par rapport au cinéma, par exemple.
Mais là,
je crois que c'est trop long, mais là, dans le film précis, il y a forcément un choix délibéré et subjectif. Parce qu'on ne se dit pas objectif du tout, je veux dire, je crois que c'est quelque chose que nous trouvons parfaitement ennuyeux. L'objectivité, moi je n'y crois pas, ça n'existe pas d'une part. Et essayer de l'être, je crois que ça crée des choses très fausses. Donc c'est un regard subjectif et c'est un choix subjectif. Et face à effectivement une certaine somme de matériaux qui n'est pas autre que celui qu'on a pu avoir. Soit parce que les gens n'ont pas pu filmer, soit parce que il y a certaines situations qu'on ne peut jamais filmer.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu as parlé d'images existantes.
Oui.
Et moi, ce que j'ai compris, c'est que l'image, elle était préexistante. Préexistante au moment où tu la tournais, où vous la tourniez.
Non.
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se donneraient avant même qu'on les ait mis dans une image, qu'on les ait encadrées. Il y a des choses qui se donneraient comme des images.
Non, là, le film s'est fait à partir de films déjà tournés.
Ben oui.
Ou de chutes de films, les chutes donc rejetées dans le montage d'autres films. Donc là, il y a effectivement une réalité pratique. C'est le genre de document auquel nous avions accès. Que le choix à l'intérieur de toutes ces kilomètres et kilomètres et kilomètres de pellicules dans lesquelles Chris Marker a choisi et où il a fait son choix à lui, là, effectivement, on peut ouvrir une discussion sur le choix.
Oui, alors...
Non, parce qu'on peut très bien imaginer, moi ça m'est déjà arrivé de voir une photo, et dans cette photo... c'est pas naïf, hein, ma question, c'est un peu pervers, je dois dire, de n'être intéressé que par un seul visage, ou que par un seul mouvement, ou que par un seul geste. Ce qui m'étonne à la limite dans votre travail, c'est de ne pas avoir été plus loin dans un choix donné.
Après avoir
choisi une image, de ne pouvoir travailler que...
Oui, alors là je peux intervenir, Caroline, parce que j'avais une question, moi aussi, à poser. C'est que Caroline dit, vous ne présentez pas votre image politique. Or, dans la distribution des forces de gauche en France, effectivement, on ne vous trouve pas. On ne vous trouve pas au PC, on ne vous trouve pas chez les gauchistes. Mais alors, il y a une chose qui m'a paru quand même évidente en voyant le fond de l'Arrière Rouge, et ça, il faut en parler, parce que là, on entre dans la matière même du film. Il me semble que de tous les hommes politiques montrés dans ce film, il y en a un qui est très largement privilégié, et c'est Fidel Castro.
Mm-hmm.
Bon, alors donc, ce serait une image... fidéliste, enfin, ou fidélienne, je ne sais pas comment on dit, de l'évolution de la politique et des luttes révolutionnaires depuis 67.
Oui, mais quand on montre une image de Castro, qu'est-ce qu'on montre? On montre
non, mais
sa
le film
main, montre... on montre sa bouche, on montre... Mais une image, c'est une image, c'est quelque chose de concret. Quand on travaille sur ce qu'ils ont travaillé, c'est-à-dire bon, cette masse énorme de pellicules qu'ils ont dû visionner, c'est un travail immense. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fouillé plus ce choix-là? Quand on donne une image de Castro, bon, moi, j'en connais beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on ne nous amène pas à un endroit de Castro qui est...
Il me semble qu'il y a, puisque tu cites l'exemple de Castro, il me semble qu'il y a justement des images de Castro qu'on n'a jamais vues. Mmh. Il y a d'autre part l'importance aussi qu'il faut donner à la parole de Castro, parce qu'il n'y a pas que l'image. Alors là, je crois qu'il parle toujours beaucoup Castro. Donc, je veux dire, là, je ne peux pas parler pour Chris, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans son esprit, ça c'est vrai. Pour choisir effectivement l'image qu'on veut donner de Castro, elle est... L'image passe aussi beaucoup à travers de ses paroles et la parole qu'il a eue pendant un laps de temps, parce qu'on le voit pendant des années, je veux dire, il revient dans le film à des moments précis dans l'histoire. Castro ayant joué un rôle aussi bien vis-à-vis de l'impérialisme américain que vis-à-vis d'un autre genre d'impérialisme soviétique, dont on parle quand même beaucoup, je veux dire, Castro a toujours une parole très claire et on a voulu le montrer, je crois. Vous voyez ?
Oui, mais alors, ça va tellement loin.
Là, je veux dire, c'est une tentation extrêmement grande de faire parler Castro parce qu'il est tellement extraordinaire. Moi, c'est mon avis.
Oui.
Je crois que Marker, effectivement, il le ressent de la même façon. Mais en même temps, il essaye quand même, il me semble, dans le film, de montrer Castro quand il discute avec Feltrinelli et qu'il, tout d'un coup, il se met à lui donner une recette de cuisine italienne. Bon, c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir de Castro.
Oui, mais alors, ce que je voulais dire simplement, c'est que le film serait, d'une certaine façon, commenté. Il y a Chris Marker, mais on sent bien que, alors que Marker a une espèce d'ironie, qui est un trait de son caractère, à l'égard
de... d'humour et de tendresse.
C'est ça, oui, c'est ça. Par rapport à quiconque. Alors, par rapport à Castro, il y a la tendresse, mais une tendresse qui est là, devient carrément... Carrément, on sent bien que Castro est de tous les hommes politiques qu'on voit dans ce film, celui qui est le moins critiqué.
Ouh là là, ça c'est pas si sûr que ça.
Bon alors parlons-en, Pierre Camus.
À la fin du film, il y a un discours de Castro qui remet en question pas mal de choses que Castro avait dites auparavant, disons dans les 10 années précédentes. Et ce discours n'est pas caché dans le film, il est bien mis, il est très très long, enfin c'est une séquence qui dure 2 ou 3 minutes. Donc il y a, même s'il y a une grande admiration, une grande affection pour Castro, pour ce qu'il a fait dans ce petit pays qui est Cuba, et ce qu'il a fait, qui a porté dans le monde entier, il y a aussi une critique, et il y a tout le temps un regard critique de tous les gens dans ce film-là.
Sur tous les gens, vous croyez ?
Oh oui.
À égalité.
Oui, mais c'est pas une critique destructive, parce que je trouve aussi, bon, mais ça n'a aucun sens et ça n'a pas d'utilité. C'est vrai que la plus grande partie et je dois dire, tous les hommes politiques qui sont montrés dans le film, parce qu'il n'y a pas que des hommes politiques non plus, parce qu'il y a quand même des tas de séquences dans le film où justement il n'y a que les gens en général qui sont montrés, leur action à eux. Et je crois qu'on se mobilise aussi un tout petit peu trop sur encore cette histoire d'élitisme. Effectivement, les leaders, ils sont là et ils sont importants. Et comme dit Allende, je crois, dans le film, en fait, on dit que ce sont les dirigeants qui font l'histoire, mais ce n'est pas vrai, ce sont les peuples qui font l'histoire. Et ça, c'est vrai. Donc, les leaders ne sont pris comme des images, finalement, d'une certaine réalité politique dans un pays donné. Où je ne veux pas non plus dénigrer les talents de chacun de ces hommes politiques, et leur abnégation, et leur... Bon, des tas de qualités qu'ils ont, et également leurs défauts, ce sont des hommes. Donc, je crois que Chris Marker, dans son film, il a réussi à rendre ses dirigeants des hommes, en même temps qu'effectivement, ils ont avaient des responsabilités, et qu'ils étaient mis en avant sur la scène politique, comme des hommes connus, des images qu'on connaissait.
L'une des bonnes raisons pour aller voir Le Fond de l'air est rouge, c'est une raison presque en soi, et qui est la séquence de Salvador Allende, qui est effectivement tout à fait étonnante, parce qu'elle est en longueur. Hein. Je crois que c'était un de ses intérêts, c'est que le film dure 4 heures, et que ça permet de ne pas avoir de fragments trop courts de ce qui s'est dit devant les caméras, et que on a parlé de chute de pellicule. Je voudrais pas que les gens croient que c'est un film fait de petits bouts, c'est un film fait de grands bouts. Et en particulier, il y a ce grand bout de Salvador Allende qui est tout à fait étonnant, enfin, qui est ce discours tenu dans une usine, et qui est en longueur terriblement intéressant comme témoignage, enfin, de ce qui s'est réellement passé ce jour-là, en tout cas. T'es pas d'accord, Pierre Donadieu? Je crois que tu avais une question à poser aussi.
Non, je suis d'accord. Non, ce que je voulais dire, c'est que je vais poser une question un peu plus générale sur la finalité du film. On peut dire que le film, c'est un bilan sur l'avancée des luttes révolutionnaires. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec une définition comme ça. Mais la question que je voudrais poser, c'est que ce bilan, il est fait par qui et pourquoi faire? Et quand je dis par qui, je ne veux pas dire par Chris Marker. Mais bon, qui est Chris Marker à ce moment-là? Et pourquoi faire? À quelle fin ce bilan?
Ben, je crois qu'il y a une réflexion de Chris, je ne sais pas si elle est dans le film ou dans les commentaires qu'il a écrits sur le film après pour le dossier de presse, par exemple. Ou même peut-être elle est au générique encore, c'est contre ces pouvoirs qui nous voudraient sans mémoire. C'est-à-dire, des tas de choses sont dites un jour, avec les médias qui fonctionnent à la vitesse grand V de nos jours, on les entend toutes, on les voit toutes, comme ça dure 2 minutes un soir à la télé, il y a X fois 2 minutes tous les jours, mais une semaine après on s'en souvient plus. C'est-à-dire, les mémoires sont tellement saturées qu'on élimine tout. Ce film-là, c'est un petit peu pour se rappeler ce qui s'est passé pendant ces 10 dernières années, tout ce qui a été dit, toutes les luttes qui ont essayé de grimper, de monter, de triompher, puis qui se sont bien souvent cassées la figure, mais qui quand même ont fait avancer des choses.
Oui, d'ailleurs, ce qui est très curieux quand on voit le film, en fonction de ce que vous dites, il est évident que quand on voit le film, on ne peut pas échapper, si on a vécu ces années-là, et à peu près tous les spectateurs les ont vécues à un âge ou à un autre, on ne peut pas échapper à sa propre biographie. C'est-à-dire que le spectateur, là, devant un film comme ça, revit ce qu'il a vécu dans ces années-là, entre 67, c'est-à-dire entre le Vietnam et aujourd'hui. Alors, comme le film s'est fait sur 3 ans, alors là, ça, c'est une question importante, comment est-ce que vous avez vécu, vous, la naissance et le développement et l'accomplissement final? Enfin, je dirais pas l'accomplissement final, en tout cas la finition, parce que c'est très difficile pour un film pareil de dire où allons-nous nous arrêter, quand allons-nous nous arrêter d'accumuler des documents et de mettre un point final, ne serait-ce que pour une diffusion, c'est-à-dire de dire le fond de l'air est rouge sort cette semaine à Paris.
Oui, je sais qu'on en avait parlé très, très souvent d'ailleurs, qu'effectivement c'était un film qui pouvait durer éternellement. C'est vrai. Bon, il y a eu une décision un jour, effectivement, il faut l'arrêter. Il y avait quand même aussi, je crois, à l'époque, des intérêts précis de diffusion, entre autres à la télévision. C'est-à-dire qu'on avait, à un moment donné, pensé que le film passerait à la télévision cet automne, c'est-à-dire au mois d'août, et qui était un peu, qui devait figurer normalement dans le même genre de programme
que 6 fois 2.
Exactement. Donc là, c'était heureusement en quelque sorte, bon, et ça n'a pas été programmé pour des raisons diverses, mais c'était une façon d'être obligé de s'arrêter. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement tentant de continuer et que c'est extrêmement difficile de s'arrêter quand on commence un travail comme ça. Et d'ailleurs, on a parlé de 12 heures à un moment donné, vous voyez, on a parlé de 16 heures, enfin, je veux dire, effectivement, on peut envisager de ne pas s'arrêter. Et ce qui a été aussi assez amusant, parce que à un moment donné, et d'ailleurs je crois que Chris l'avait abandonné vers la fin du film, c'est qu'il a enregistré sur vidéo une bonne partie des nouvelles et des émissions à la télé. C'est-à-dire pour continuer sa compilation au jour le jour. Bon, à partir d'un certain moment, si on fait ça sérieusement, on se rend compte que la moitié de votre journée, elle passe à compiler, et le temps pour réfléchir à savoir comment on intègre ça dans justement cette compilation de documents, ces références, ces nouvelles références que vous avez par rapport à ce que vous avez déjà compilé et mis en forme, c'est vrai que c'est un travail éternel. Et on le voit d'ailleurs, on aurait pu, le film s'arrête donc au printemps, il s'est passé des tas de choses extrêmement importantes par rapport à la scène politique en France depuis. Bon, c'est dommage qu'il ne soit pas dedans. Je veux dire, tout ça, effectivement, c'est très tentant. Mais je crois que là, il y a eu une envie, si vous voulez, de passer un film comme ça sur les chaînes de télévision française, et qui a fait que, essayons de nous dépêcher, finissons-le pour le mois d'août. Et je crois que ça a joué énormément.
Bon alors, oui d'accord, alors maintenant, nous savons à peu près comment les choses se sont faites. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé au cours de cette émission, et qui est toute la question finalement, c'est-à-dire que une équipe et un homme décident de faire un film d'histoire politique concernant toutes les luttes révolutionnaires depuis 67 dans le monde jusqu'à aujourd'hui, vu d'ici, c'est-à-dire vu de France. Et c'est le mot honnêteté. Vous avez refusé le mot objectivité, bien sûr, comme tout le monde. Mais cette honnêteté de Chris Marker, comment est-ce qu'elle se manifeste chaque jour ?
C'est une telle évidence pour moi que c'est dans les rapports entre les gens.
On s'attribue bien souvent aussi le droit à l'erreur. C'est-à-dire quand on parle entre nous et même quand on n'est pas entre nous, même là en ce moment on ne se connaît pas tellement tous qu'on est, mais on s'attribue quand même le droit à l'erreur, c'est-à-dire on se permet de pouvoir dire une bêtise et puis ensuite de la corriger, puis d'accepter la critique, c'est un petit peu ça aussi l'honnêteté.
C'était Le cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe avec Inger Servolin et Pierre Camus à propos du film de Chris Marker, Le fond de l'air est rouge. Première diffusion le 27 novembre 1977 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi. Ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà ? José Abdel Argentino, Arabica, Yann Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, pour de l'argent ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noire. Est-ce que je rêve de vengeance, de tête policière éclatée, de tête de chasseur sanglante, de tête de raciste empurée? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leurs dedans, et se découvrent en nouveau monde? Je suis mort, répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patochka argentin et bébé phoque arabe. Maintenant, ça me revient.